Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Samuel Bernard, mais aussi Tiffaine de Roquigny, Marguerite Caton, Garance Munoz, réalisée par Luc-Jean Reynaud et mise en onde ce matin par Jean Frédérics. Cette semaine dans Culture Monde, donc, nous allons parler des métaux, un monde sous perfusion métallique. Mardi, nous nous intéresserons au marché des métaux, de l'or au cobalt en passant par le zinc. Mercredi, nous partirons au Pérou, mais également en Bolivie, pour nous pencher sur la dimension écologique liée à l'extraction minière. Jeudi, enfin, on essaiera de comprendre cette guerre au cœur du secteur des métaux qui se joue entre les États et les multinationales. Mais aujourd'hui, place aux terres rares, le nouvel instrument de domination de la Chine.
En dehors du prométhium, très peu présent dans la nature, on trouve toute la gamme des terres rares en Chine. Quand on parle de terres rares aujourd'hui, on pense aussitôt aux ressources chinoises.
La semaine dernière, la Chine a suspendu ses livraisons de terres rares à destination du Japon. Il s'agit d'un avertissement fort. Ma conclusion est que la Chine a pris le contrôle du marché des terres rares. Et nous, les États-Unis, sommes en train d'être dépassés.
Baotou est la ville des hautes technologies et des terres rares. Chaque année, nous pouvons fournir 30 000 tonnes d'aimants, 10 000 tonnes de lanthanide qui servent à stocker de l'hydrogène, 10 000 tonnes de matériaux de polissage, 300 tonnes de matériaux luminescents, 1 000 tonnes de minerais catalyseurs. Les industries technologiques sont donc les bienvenues, car nous pouvons leur fournir pratiquement toutes les terres rares dont elles ont besoin.
Si les Chinois se réjouissent de pouvoir fournir des terres rares aux entreprises étrangères, cette mainmise inquiète les autres pays, notamment les États-Unis. On entendait notamment la sénatrice Katie Del Kemper juste après la mise en place d'un embargo chinois, c'était en 2010. Le Moyen-Orient a du pétrole, la Chine à des terres rares, disait Deng Xiaoping en 1992. L'initiateur des réformes économiques avait pressenti l'importance de ces métaux pour le futur de l'économie mondiale et il n'avait pas tort. En effet, ces terres rares sont aujourd'hui essentielles car incontournables dans les hautes technologies, depuis les batteries de voitures électriques aux puces de nos smartphones jusqu'aux panneaux voltaïques ou encore aux éoliennes. Si elles ne sont en réalité pas si rares que cela, puisque présentes dans l'ensemble de la croûte terrestre, c'est pourtant bien Pékin qui assure la quasi-totalité de l'approvisionnement mondial en terres rares. Alors comment la Chine est-elle parvenue à atteindre une telle hégémonie sur ce secteur si essentiel? Est-ce le résultat d'une politique planifiée par Pékin ou d'un heureux concours de circonstances? Et quels avantages stratégiques cela confère-t-il à la Chine? Comment les autres pays peuvent-ils répondre à cette situation de dépendance? Voilà les questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Bonjour Guillaume Pitron.
Bonjour Florian Delorme.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste au Monde Diplomatique, réalisateur également de documentaires. Vous aviez réalisé notamment un documentaire dont on a entendu là un petit extrait, La sale guerre des terres rares, qui avait été diffusé sur France 5. Et vous signez, il y a quelques mois maintenant, un ouvrage sur ce sujet, La guerre des métaux rares, sous-titré La face cachée de la transition énergétique et numérique, est paru aux éditions des Liens qui libèrent. Ça fait des années que vous enquêtez sur ces terres rares. Vous êtes allé dans une douzaine de pays pour compiler un peu des informations autour de ces enjeux. On va commencer par un peu de définition, Guillaume Pitron. Présentons ce que sont les terres rares et peut-être faut-il dire aussi un tout petit mot sur les propriétés physiques qui les rendent aussi importantes. Guillaume Pitron.
Alors les terres rares, c'est une cousinade de 17 minerais avec des noms poétiques, prométhium, praséodyme, néodyme, europium, samarium, etc. Et ces terres rares font partie d'un ensemble plus général de métaux rares. On en compte environ une trentaine et effectivement, elles sont indispensables aux technologies vertes et numériques qui sont les deux piliers de la transition énergétique d'aujourd'hui. Mais plus généralement, elles vont être absolument nécessaires, de plus en plus nécessaires dans toutes les technologies du futur, que l'on parle de la robotique, robotique, de l'intelligence artificielle, de l'hôpital connecté, que sais-je. Elles ont des propriétés chimiques, physiques, absolument fabuleuses pour les industriels. On les a d'ailleurs, ces propriétés, en fait, découvertes et utilisées d'un point de vue industriel à partir des années 70-80. Je peux citer notamment une propriété importante. Grâce aux terres rares, on peut faire ce qu'on appelle des aimants. Plus précisément, des aimants surpuissants. Vous avez tous des aimants chez vous. Vous les collez sur votre frigidaire. Imaginez des aimants qui sont 10, 20, 30 fois plus puissants que ces aimants-là et qui, en fait, sont utilisés notamment dans les motrices, pour faire rouler tout simplement les voitures électriques. Et tous les moteurs électriques aujourd'hui, enfin une grande partie des moteurs électriques, utilisent des aimants à base de terres rares qui, parce qu'elles ont des propriétés électrochimiques, eh bien en fait, font que ces aimants vont pouvoir actionner des mouvements dans des moteurs et donc remplacer le moteur thermique classique. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de transition énergétique, c'est puisque on peut faire en fait actionner des véhicules, notamment sans avoir à générer de carbone.
Et on connaît les terres rares depuis un moment maintenant, puisque le premier à découvrir une terre rare, c'est un Suédois, Carl Axel Arrhenius, en 1787. Mais à l'époque, elles sont pas très utiles pour l'industrie, et c'est à partir des années 1940, finalement, qu'on va se mettre à développer tout ça, développer des méthodes d'extraction à grande échelle, parce qu'on va leur trouver des utilités dans l'industrie. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette extraction, elle demande des moyens absolument colossaux. Il faut traiter plusieurs tonnes de terre pour obtenir un kilo de la dite terre rare, en tout cas d'une espèce de terre rare.
Oui, parce qu'en fait, ces terres rares, donc, comme vous l'avez dit, sont rares et pas rares à la fois, mais dans la croûte terrestre, elles se trouvent dans des proportions infinitésimales par rapport à des métaux abondants comme le fer ou l'aluminium ou le zinc. Et donc, effectivement, les extraire du sol, ça nécessite de broyer de la caillasse. De la caillasse, on va extraire plusieurs métaux qui sont mélangés les uns aux autres naturellement dans la croûte terrestre. Et en fait, il va falloir séparer ces métaux les uns des autres. Donc, on va réutiliser après, derrière, toutes sortes de produits chimiques, des solvants toxiques qui vont permettre en fait de purifier des terres rares à 99,999%. Et simplement ça, eh bien c'est énormément d'énergie, énormément de d'impact sur l'environnement bien sûr.
Et les terres rares sont absolument partout, dans, je le disais, les batteries, nos ordinateurs, dans les LED, dans les ampoules à basse consommation, dans les panneaux solaires, dans les éoliennes. Donc celui qui maîtrise les terres rares a le contrôle d'une certaine manière de l'économie de demain. On nous annonce parfois, Guillaume Pitron, l'avènement d'un monde qui a franchi de la dépendance au pétrole serait un monde plus sûr, un monde avec moins de guerre, avec moins de pollution, etc., etc. Comme si, d'une certaine manière, les énergies fossiles étaient la cause de tous nos maux. En réalité, ce monde de l'après-pétrole qui s'annonce, il n'est pas complètement serein. Ce que vous expliquez dans votre ouvrage, c'est qu'on va tout droit vers une nouvelle forme de dépendance, en l'occurrence une dépendance aux terres rares, et que tout ça aura un coût environnemental, économique, géopolitique. Pour vous, cette dépendance, elle sera même encore plus dramatique que celle qui découlait du pétrole.
Elle sera plus dramatique parce que nous serons demain 10 milliards et que nous ne sommes entre guillemets que 7 milliards aujourd'hui, 7 milliards 5. Donc évidemment, en fait, nous avons pensé cette transition énergétique, selon moi, hors sol. Nous avons écrit des magnifiques traités à Paris, notamment la COP21. Nous sommes rassemblés pour effectivement écrire un monde de demain qui est enthousiasmant. Mais nous avons juste oublié qu'avant même de penser cela, avant même de mettre en place un écosystème pour créer ces technologies, il fallait d'abord, en fait, tout simplement aller chercher ces ressources quelque part. Et l'après-charbon, c'est le pétrole. Et l'après-pétrole, ce n'est pas rien. Tout le monde pense qu'il n'y a rien après parce que nous sommes finalement déconnectés de la nature, tout simplement. Déconnectés de ce qu'il en coûte réellement d'aller chercher ces métaux qui sont indispensables pour toutes les technologies. Et donc, effectivement, nous passons d'une dépendance à une autre. De la dépendance au pétrole à une autre dépendance, à des nouvelles matières premières qui vont changer le monde. Et cette nouvelle dépendance charrie autant de problèmes que les problèmes précédents dont nous pensons nous débarrasser. Nous rencontrions avec le pétrole des problèmes écologiques, géopolitiques, économiques, nous les connaissons tous. Et bien simplement, en basculant dans ce prochain pétrole, c'est comme ça qu'on appelle les terres rares, the next oil, le pétrole du 21e siècle, et bien nous retrouvons différents mais finalement des mêmes problèmes.
Donc on aura des conflits autour des terres rares. On aura des conflits autour des terres rares.
Il y a déjà des conflits d'ordre économique, ça c'est sûr. Il y a une guerre dont on va parler économique qui est extrêmement violente et dont je pense qu'il faut vraiment avoir conscience parce qu'elle est à l'avantage de la Chine, elle tourne à l'avantage de la Chine. Et je ne suis pas un prophète, je ne sais pas s'il y aura des guerres au sens physique, des conflits militaires pour l'appropriation des terres rares, mais dans un monde où nous serons toujours plus nombreux, avec toujours plus besoin de terres rares, dont l'augmentation de la consommation est exponentielle, ça va créer des tensions. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il quand il y a des tensions? Je peux pas vous le dire, mais en tout cas, le monde qui vient est un monde qui est tout sauf l'enthousiasmant comme on a pu le croire à la COP 21.
Et ce qu'on peut peut-être rajouter, Guillaume Pitron, c'est que si les guerres de demain se font autour de ces enjeux des métaux rares, des terres rares, on peut être d'autant plus inquiet qu'en réalité, les armes les plus sophistiquées, précisément celles dont disposent les Occidentaux, sont truffées de terres rares. Donc là aussi, dans le domaine militaire, la Chine dispose d'un avantage absolument colossal. La course aux terres rares, c'est ce que vous dites, est aussi une course aux armements.
C'est une course aux armements parce qu'on a besoin notamment, alors parmi plein d'autres choses, mais on a besoin de terres rares pour, en fait, les terres rares, des aimants de terres rares rentrent dans notamment les missiles de longue portée et de haute précision. C'est-à-dire qu'un missile ne serait pas aussi précis, ne viserait pas bien sa cible si jamais il n'y avait pas ces fameuses terres rares. Or, en fait, les Américains, en plus d'abandonner aux Chinois le monopole, enfin leur monopole ou leur avantage sur l'extraction de terres rares, puisqu'ils avaient, les Américains, des mines de terres rares chez eux, mais ils les ont laissées aux Chinois dans les années 80, en plus de ça, ils ont laissé aux Chinois l'aval de la filière, c'est-à-dire les fameux aimants. Et c'est là l'affaire Magna Quench qui est absolument hallucinante. C'est-à-dire qu'en fait, au détour des années 90 et 2000, sous les administrations Clinton puis Bush, en fait, une usine d'aimants de terres rares extrêmement stratégique n'aurait jamais dû quitter le territoire américain, a été racheté par les Chinois dans des circonstances extrêmement troubles, à une époque où les Chinois tentaient d'influer sur le processus de électoral américain d'ailleurs, et elles se sont retrouvées, ces technologies, ces aimants et les brevets qui allaient avec, à Tianjin, à 100 km de Pékin, et donc aujourd'hui, les Américains ont besoin des aimants chinois pour leurs propres armements.
On va revenir sur cette affaire des super aimants, effectivement. Mais essayons de comprendre finalement pourquoi la Chine est dans cette situation, une situation de quasi-monopole. C'est parce que elle a été peut-être l'une des premières à mesurer les enjeux de l'extraction de ces terres rares. Écoutez. Alors, cette voix, vous ne la connaissez probablement pas, les auditeurs non plus, on n'a pas traduit ce propos, mais l'homme qui le tient est un homme absolument incontournable dans les terres rares. C'est Xu Guangqian, c'est le père des terres rares chinoises, qui est décédé en 2015, qui est né en 1920. C'est d'ailleurs lui aussi l'un des scientifiques qui avait participé à l'élaboration de la bombe atomique chinoise. Et en fait, c'est lui qui va expliquer d'une certaine manière au cadre chinois l'importance de ces terres rares et qui va convaincre Deng Xiaoping qu'il faut absolument utiliser ces terres rares parce que c'est probablement un outil de la domination future de la Chine.
Deng Xiaoping, vous l'avez dit, a dit en 92, aurait dit, le Moyen-Orient, le pétrole, la Chine a les terres rares. Deng Xiaoping est visionnaire, tout le monde le sait, il a compris effectivement que, eh bien, la domination chinoise sur les terres rares, qui est aujourd'hui de l'ordre de 95% de la production mondiale, lui donnerait un avantage, donnerait à la Chine un avantage sur toutes les technologies utilisatrices de ces terres rares. Qui contrôle le minerai, contrôle l'industrie, contrôle également les industries militaires. Et donc, ils ont
comment
décidé...
Comment expliquer que cet homme-là ait été aussi sensible, aussi familier à ces questions de souveraineté minérale, alors que, d'une certaine manière, on s'en rend, nous, occidentaux, compte seulement maintenant?
D'abord, Deng Xiaoping le parcours de Deng Xiaoping passe par le domaine minier et le domaine de la transformation du métal, du minerai en métal. Et de même que
il a travaillé dans une fonderie en France, d'ailleurs.
Voilà, au Creusot, puisqu'il est passé en France, étudié en France et ses premières expériences professionnelles se sont passées là-bas. Et d'une façon générale, au Parti communiste chinois, beaucoup ont des formations scientifiques, donc ils comprennent ces problématiques scientifiques et qui plus est minérales, que nous, personnellement en France, nous ne comprenons pas parce que, voilà, du politique au scientifique, eh bien, en fait, il y a un gap, un fossé qui se creuse et donc, en fait, nos dirigeants politiques ne sont pas familiarisés à ces enjeux technologiques, à ces enjeux de terres rares, de métaux en général, comme le sont les Chinois.
Alors que tous les Chinois qui ont dirigé le pays depuis Deng Xiaoping le sont, hein.
Exactement.
Alors la Chine n'était pas la seule à extraire des terres rares. Vous l'avez dit, les États-Unis avaient commencé à le faire dans les années 1960, mais grâce aux énormes efforts qui ont été produits par Pékin dans les années 90, au début des années 90, la Chine dépasse les États-Unis, devient le premier producteur mondial. Et pour enfoncer le clou, Pékin va casser les prix et totalement asphyxier la concurrence. Expliquez-nous comment tout ça se passe.
Les Chinois ont dit aux Américains, écoutez, ces terres rares, c'est sale. Et les Américains, à ce moment-là, avaient des réglementations environnementales de plus en plus strictes. Et donc tout le monde y a trouvé son compte dans l'histoire. Les Américains voulaient se débarrasser des terres rares, leurs mines de Mountain Pass posaient d'énormes problèmes écologiques. Et de l'autre, les Chinois disaient, écoutez, nous, on sort du maoïsme et on a besoin de s'enrichir. Deng Xiaoping était convaincu que le développement industriel de la Chine serait mieux que le développement agricole. Et finalement, tout le monde s'est arrangé. Les Chinois ont récupéré le sale boulot, puisque c'était un sale boulot d'un point de vue environnemental, mais qui leur permettait, sur des applications en amont de la chaîne de valeur, c'est-à-dire l'eau avec peu de valeur ajoutée, leur permettrait finalement de s'enrichir et puis bien évidemment d'inonder le reste du monde avec des terres rares à bas prix. Ils ont agencé un dumping écologique, c'est-à-dire que les coûts pour l'environnement de l'extraction de ces terres rares n'ont pas été inclus dans les prix de vente, et puis un dumping économique, puisque en fait le secteur des terres rares a été et toujours d'ailleurs subventionné. Donc en fait il fonctionne à perte. Et nous, occidentaux, mais les Français aussi, complètement obnubilés par l'évolution de notre pouvoir d'achat pour acheter des téléphones portables moins chers et des voitures électriques moins chères, avons complètement laissé les Chinois nous inonder de terres rares à bas prix. Et ce faisant, eh bien en fait, les Chinois se sont rendus maîtres à 95% des terres rares.
Alors, en fait, au-delà de la simple rente d'une certaine manière sur ses ressources minières, la Chine a opté aussi pour une stratégie extrêmement subtile par laquelle elle a attiré donc les industriels étrangers, notamment américains, appâtés par ces minerais à bas coût, pour s'approprier au passage des savoirs technologiques. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait un échange sur le mode terres rares contre transfert de technologie.
Les Chinois ont vite compris l'intérêt qu'ils pouvaient avoir à avoir l'écrasante majorité de cette production. Et quand un pays a généralement détient un tel monopole sur une ressource stratégique, l'histoire vous montre souvent qu'il l'a utilisé à son profit. La Chine, au début des années 2000, décide d'instaurer des quotas. C'est-à-dire qu'elle dit aux pays occidentaux, mais moi je vais arrêter de vous vendre des terres rares à satiété, je vais commencer à réduire mes exportations. Jusqu'à d'ailleurs un embargo en septembre 2010 à l'encontre du Japon et des États-Unis qui a duré 6 mois, au cours duquel, eh bien, tout simplement, les Chinois n'ont plus vendu de terres rares. Ils ont asséché le marché. Mais qu'est-ce qu'ils disent, les Chinois? Ils vous disent, écoutez, à partir de maintenant, on va plus vous vendre de terres rares, en tout cas, on vous en vendra moins. Mais si vous voulez venir avec vos technologies en Chine, profiter de notre marché d'une main-d'œuvre à bas coût et de la matière première à satiété, eh bien, vous êtes les bienvenus. Et donc, qu'est-ce qu'a fait la Chine? Finalement, elle a proposé une forme de chantage, mais le mot chantage n'est pas un préjugé, parce que moi, je trouve que ça, c'est intelligent comme politique de dire, écoutez, vous voulez la technologie, les ressources, très bien, mais vous allez en échange venir avec vos industries, venir avec vos laboratoires de recherche et développement, vos chercheurs. On va faire une petite JV, une joint venture, avec 51% pour les Chinois. On va prendre vos brevets, on va co-innover ou réinnover et on va mettre un tampon chinois dessus. Et donc, qu'est-ce qu'ont fait les Chinois? Ils ont appris. Et aujourd'hui, sur des tas de domaines, ils sont non seulement au même niveau technologique que nous, les domaines de technologie qu'ils utilisent, etc., mais c'est ce qu'a dit la sénatrice américaine Kathy Dalkemper tout à l'heure au micro. Elle a dit, les États-Unis sont en train d'être dépassés. Et j'insiste sur ce mot, on est dépassé.
Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner un exemple de transfert de technologie qui s'est fait sur ce principe, donc terres rares contre transfert technologie? Revenons sur la question des super-aimants, par exemple.
Alors, typiquement, effectivement, les super-aimants, c'est cela. C'est-à-dire que dans les années 80-90, les Chinois proposent notamment aux Japonais et aux Américains qui détenaient la majeure partie du secteur des terres rares et des aimants de terres rares, eh bien en fait de développer chez eux en Chine ces propres technologies. Il faut savoir qu'au départ, les Occidentaux, les Japonais l'ont fait de bonne grâce. Ça arrangeait tout le monde, cette histoire de délocaliser la low-tech en Chine en se concentrant pour les Japonais et les Chinois sur le high-tech, sur lequel on pensait qu'on aurait toujours 20 ou 30 ou 40 ans d'avance. Et puis derrière, les Chinois ont dit, et on va vous rajouter ces histoires de quotas. Et donc en fait, c'est là que le chantage est arrivé. Et donc aujourd'hui, alors à l'époque, 80%.
D'autant que, disons que, pardon, je fais une toute petite parenthèse, c'est qu'au départ, on met un certain nombre de quotas, un volume de quotas en place, et puis progressivement, on va diminuer les quotas pour que les entreprises qui n'avaient pas encore délocalisé se retrouvent contraintes de le faire.
Exactement. Alors, ce n'est pas qu'à cause de ça que les entreprises ont délocalisé. Elles délocalisent aussi parce qu'il y a un accès au marché, parce que la main-d'œuvre est pas chère. Mais c'est une motivation supplémentaire pour ces groupes de délocaliser leurs industries. Et donc, effectivement, vous avez à l'arrivée la Chine qui contrôlait 20% du marché des métaux, des aimants de terres rares dans les années 80 et qui se retrouve à en contrôler 80%.
Alors l'inquiétude justement des pays étrangers commence à poindre. Écoutez justement un sénateur américain.
La Chine organise artificiellement une pénurie et des quotas d'exportation, ce qui augmente les prix à l'international alors qu'elle les maintient à bas prix en Chine. Les industriels dans les États de l'Ohio et du Delaware ne peuvent tout simplement pas rester compétitifs. Comment pouvons-nous être compétitifs lorsqu'ils trichent de manière aussi éhontée?
Sénateur Sherrod Brown, extrait justement de votre documentaire, hein, La sale guerre des terres rares, de 2012. Qu'est-ce qui va faire finalement que le monde va prendre conscience que cette dépendance vis-à-vis de la Chine qui a la main mise sur les terres rares est problématique? Est-ce qu'il y a un événement déclencheur qui va jouer?
Un embargo. La crise. Il faut une crise pour, au pied du mur, réaliser ce qui nous arrive.
D'où vient cette crise ?
En septembre 2010, la Chine agence un embargo informel sur le Japon et les États-Unis à la suite d'une sombre histoire de chalutier, une bisbille entre le Japon et la Chine qui se dispute quelques îlots isolés en mer de Chine méridionale.
Les fameuses îles Senkaku.
Voilà, la Chine le prend mal le lendemain ou l'après-lendemain, enfin quelques jours plus tard, plus de terres rares dans les ports japonais. Et donc c'est à ce moment-là en fait qu'on prend conscience de cette dépendance.
Et on prend conscience de cette dépendance et la première réaction de ces pays, elle vient du Japon justement, quelques semaines après cette fameuse embargo, informel dites-vous, on va créer des réserves de terres rares pour anticiper justement les interruptions d'approvisionnement. Il faut dire qu'évidemment, pour l'industrie nippone en particulier, c'est extrêmement problématique. On sait qu'elle est particulièrement tournée sur les technologies. La Corée du Sud va faire la même chose. Les États-Unis vont aussi faire passer une loi qui va dans ce sens. Donc les premières réactions dans un premier temps, c'est créer des stocks.
Oui, alors je suis moins à l'aise sur les stocks. Je sais qu'il y a des stocks aux États-Unis sur certains types de terres rares. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Je sais qu'il y en a en Russie. Comment ça se passe au Japon? En fait, on est très les pays occidentaux et le Japon sont très mal à l'aise par rapport, la Corée du Sud sont très mal à l'aise par rapport à ces histoires de stocks parce qu'un stock ça coûte cher. Et donc du coup, il y a un débat permanent sur le mode est-ce que vraiment on a intérêt à stocker sur le long terme des métaux dont on ne sait pas très bien s'ils seront exactement ceux-là qui seront importants dans un avenir proche ou moins proche. Et donc, certains pays stockent, certaines entreprises stockent, notamment le groupe Siemens, stockent, mais c'est pas du tout une politique qui fait consensus au sein des pays. En fait, on laisse encore aujourd'hui la Chine largement maîtriser, dominer ce marché et finalement nous enserrer de ses pions comme un joueur de Go.
Un monde sous perfusion métallique, c'est notre sujet toute cette semaine dans Culture Monde. Aujourd'hui, Terres Rares, l'instrument de domination de la Chine. On est avec Guillaume Pitron, qui est journaliste au Monde Diplomatique, qui est réalisateur, qui a fait ce documentaire, La sale guerre des terres rares, mais aussi cet ouvrage absolument passionnant, La guerre des métaux rares, dont on parle aujourd'hui.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et on va prendre la direction de l'Union européenne, puisque à la fin des années 2000, en 2009, l'Union européenne était dépendante à quasiment 100% de ses importations en terres rares. Et pour y remédier, elle va devoir mettre en place des stratégies. Lesquelles? C'est ce qu'on va voir. Bonjour Gilles Lepesant.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de recherche au CNRS dans le laboratoire Géographie Cité. Vous êtes également chercheur associé au CERI et membre de l'Asian Energy Studies Center de l'Université Baptiste de Hong Kong. Vous avez réalisé très récemment un rapport pour l'IFRI intitulé « La transition énergétique face aux défis des métaux critiques ». Ça fait plusieurs années maintenant que la Commission européenne publie une liste de métaux dits critiques. Il y avait une première liste qui avait été publiée en 2011 et puis depuis on la met à jour régulièrement. 2014-2017, la dernière version retient 27 substances critiques parmi les 60 substances ou groupes de substances étudiées. Alors, peut-être très rapidement, qu'est-ce qu'on appelle les métaux critiques et est-ce qu'il faut interpréter cette publication, la publication de cette liste, comme le signe d'une inquiétude? Ça y est, du côté de l'Europe, on est inquiète de se retrouver en situation d'épuisement de ressources dont on manque et on regardera ce que l'Europe prévoit pour répondre à cette mainmise chinoise. Gilles Lepesant.
Oui, l'Union européenne s'est intéressée à cette question depuis plusieurs années déjà, et effectivement, elle a publié trois listes qui ne sont pas, ces listes ne sont pas dirigées naturellement contre la Chine, mais essayent d'établir une liste de métaux critiques à l'aune de plusieurs critères, par exemple la disponibilité, les possibilités de substitution ou l'importance du métal concerné pour l'économie européenne, par exemple. Mmh. Et ces métaux critiques, alors vous avez bien raison de poser la question parce qu'ils recouvrent les terres rares, dont on connaît très bien le nombre, elles sont au nombre de 17, ainsi que d'autres métaux qui peuvent être jugés critiques par certains et pas du tout critiques pour d'autres. Et effectivement, on a là un point central, c'est un point de méthodologie, car cette liste de métaux critiques peut évoluer très rapidement. En fait, la géographie de la production peut évoluer, par exemple, pour ce qui concerne les terres rares, mais aussi pour d'autres métaux, on a observé que lorsqu'on a une situation de crise, eh bien, des mines nouvelles souffrent, notamment pour les terres rares, car elles ne sont pas rares du tout, comme vous l'avez rappelé. Mmh. On subodore également que, qu'en milieu océanique, on a des réserves de terres rares tout à fait conséquentes. Le Japon et l'Inde y travaillent notamment. Donc, les choses peuvent très vite changer en cas de crise. La deuxième raison pour laquelle c'est très difficile d'établir ce genre de liste, c'est que les évolutions technologiques sont rapides. Je vous donne un seul exemple. L'europium, qui est une de ces terres rares, était considéré comme un métal critique car il était indispensable aux luminaires. Le jour où les lampes LED se sont implantées sur le marché, les besoins ont chuté et aujourd'hui ce n'est plus considéré comme un métal critique. Mmh. Et puis le dernier point, c'est que vous avez de plus en plus d'industriels qui apprennent à se passer de terres rares. Oui. Le plus grand fabricant américain de voitures électriques se fonde sur des moteurs à induction qui ne recourent pas aux terres rares. Donc il faut avoir
il y a des stratégies de substitution en réalité. Vous dites, Gilles Lepesant, que cette liste de la Commission européenne, elle pointe pas directement du doigt la Chine, sauf que quand on regarde un peu justement d'où viennent précisément tous ces métaux critiques, on voit que la Chine est quand même pas mal représentée, et c'est un euphémisme. Donc c'est intéressant quand même de regarder ce que peuvent les Européens contre cette mainmise chinoise. Et alors là, il faut se tourner vers les solutions juridiques et rappeler peut-être qu'en 2012, les États-Unis et l'Europe, mais aussi le Japon, avaient porté plainte contre la Chine auprès de l'OMC à propos des quotas d'exportation dont on parlait tout à l'heure avec Guillaume Pitron. Elle a été condamnée, la Chine, par l'OMC, qui avait jugé ses droits de douane absolument illégaux au regard des principes du commerce international. Donc c'est intéressant parce que ça veut quand même dire que l'Europe dispose d'outils, en l'occurrence l'OMC, qui permettent de mettre la pression sur la Chine. Et de ne pas être trop exposé à la restriction de ressources.
Oui, l'Union européenne a déposé plainte à deux reprises, mais à trois reprises, même la dernière fois est en 2016. À chaque fois, les situations sont différentes, mais généralement, il s'agit pour l'Union européenne de protester contre la tendance qu'a la Chine de limiter ses exportations, ou bien de nouer des accords avec d'autres pays, car la Chine a beaucoup de terres rares, mais elle investit également massivement dans des gisements de terres rares à l'étranger. Et donc la tentation à s'accaparer une grande partie des gisements dans lesquels elle investit. Cela étant, donc cette liste permet à l'Union européenne d'affiner sa politique commerciale, et on sait très bien que c'est au niveau de l'Union européenne qu'une question de cette nature peut être réglée, certainement pas au niveau des États.
Oui, ça c'est au niveau théorique, mais Gilles Lepesant justement, mais je voulais vous interroger là-dessus. Est-ce que vous diriez que vraiment, sur ces questions, l'Union européenne coordonne les efforts et à travers la Commission, on pense vraiment ce défi entre tous les États membres, ou est-ce que finalement, globalement, tout le monde se débrouille un peu dans son coin ? Allons au-delà de la liste. Hein.
Disons que au-delà de la liste, déjà la politique commerciale est un outil extrêmement important, mais il est vrai qu'on voit bien qu'il y a deux options sérieuses qui permettraient de sortir par le haut de cette situation. La première, c'est le recyclage. L'Union européenne ne recycle pas assez les métaux et les plastiques qu'elle utilise. Une grande partie de ces matériaux, soit dit en passant, est exportée vers la Chine ou vers l'Afrique. Donc la Chine est de plus en plus réticente à accepter les déchets des pays développés. Ça peut être une opportunité pour l'Union européenne de renforcer son recyclage, de changer ses normes, de trouver de nouveaux modèles économiques, et peut-être aussi voir de changer ses modes de consommation pour recycler davantage les métaux qu'elle utilise. Et puis le deuxième aspect qui est naturellement encore plus important, c'est l'enjeu technologique. Aujourd'hui, comme vous le rappeliez, l'essentiel des panneaux solaires sont faits en Chine. Mais l'Union européenne a eu une politique très efficace pour assurer la montée en puissance des énergies renouvelables. En revanche, la politique industrielle est restée un peu timorée. Alors, on a une tentative très récente qui s'est mise en place autour de la batterie, avec l'annonce d'un Airbus de la batterie rassemblant différents industriels européens. Et c'est vrai que c'est là qu'est l'enjeu, car la batterie dans un véhicule électrique représente à peu près 40% du prix, donc c'est le cœur du véhicule, c'est un élément fondamental. Et l'Union européenne doit se préparer à se préparer à cette transition qui est tout à fait considérable. Cela étant, comme vous le disiez, effectivement, chacun peut jouer sa propre partition. Il y a des industriels qui ont déjà des partenariats avec un certain nombre de pays d'Asie, pas seulement la Chine, mais aussi le Japon, et qui considèrent peut-être que ce réveil de la politique industrielle européenne vient un peu tard.
Vous restez avec nous, Gilles Lepesant. Je vais faire intervenir dans un instant Guillaume Pitron. Mais d'abord, un petit extrait. Vous parliez de recyclage. Quel est le potentiel de recyclage ? Ça va être une question, ça.
On pourrait imaginer les résidus comme des déchets. Mais pour nous, c'est un minerai pour l'avenir. Ce résidu de bauxite contient du fer, du titane, du silicium, des métaux des terres rares et du scandium. À l'avenir, ce sera le minerai principal pour produire tous ces éléments.
Ce résidu particulier de bauxite contient environ 1,5 kg de terres rares par tonne. Cela peut ne pas sembler très impressionnant, jusqu'à ce que vous faites les calculs. Ajoutez 700 000 tonnes par an, nous sommes assis sur 10% de la demande annuelle européenne des terres rares.
Voilà, on entendait deux témoignages qui nous viennent de Grèce. Vicky Vassiliadou, qui est ingénieur des mines et en métallurgie pour l'usine aluminium de Grèce, et puis le docteur Eftimios Balomenos, qui est chercheur à l'école d'ingénierie minière et métallurgie d'Athènes. C'est extrait d'un reportage d'Euronews qui avait été diffusé en avril 2017. Guillaume Pitron, c'est vrai que, évidemment, cette dépendance à la Chine pousse déjà les pays à développer des filières de recyclage. Mais jusqu'où ce recyclage peut permettre de sortir de cette dépendance chinoise, Guillaume Pitron?
Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par Gilles Le Pesant. Le recyclage, c'est la solution. C'est l'une des grandes solutions pour effectivement être capable de desserrer l'étreinte chinoise. Simplement, c'est une solution qui est aujourd'hui très théorique. On sait techniquement recycler, mais comme c'est très cher de recycler ces métaux qui, en fait, sont utilisés sous forme d'alliage, il faut les désallier pour les recycler. En fait, en réalité, ça coûte moins cher d'aller se resservir à la mine chez les Chinois que d'aller recycler chez nous. Et donc, du coup, nous dormons sur des tas d'or que nous renvoyons notamment en Chine, paradoxe, voire en Afrique. Et en réalité, quand on regarde justement l'indice de recyclage de la Commission européenne, de la liste de 2017, on recycle de 3 à 8% des terres rares. Donc en réalité, il faudrait peut-être qu'on se décide à payer un peu plus cher nos téléphones portables pour vraiment recycler. Aujourd'hui, c'est relativement théorique.
De toute façon, on a toujours l'option juridique qui nous permet de forcer, de tordre le bras un petit peu à la Chine et d'aller de toute façon s'approvisionner chez eux, pas de problème.
J'y crois pas une seconde. La Chine effectivement a perdu notamment sur plusieurs volets à l'OMC face aux États-Unis et à l'Europe notamment, mais en réalité, alors ils ont dit officiellement effectivement on va respecter cette décision. En réalité, quand vous regardez dans les détails, la Chine n'exporte pas plus de terres rares qu'avant la décision de l'OMC qui lui donnait tort, parce que en réalité elle a baissé sa production plutôt que de changer sa politique commerciale. Donc à l'arrivée, nous n'importons pas davantage de terres rares. Il faut pas être naïf. Il faut vraiment sortir de cette naïveté qui a été la nôtre, de penser que la Chine nous fera des cadeaux. Les enjeux sont trop forts en Chine et ce métal, les terres rares, ces métaux sont trop stratégiques pour croire que, par la grâce de l'OMC, les choses vont changer.
Gilles Le Pesant, je vous retrouve parce qu'il faut qu'on continue d'approfondir ces stratégies, parce qu'il y en a plusieurs de l'Union européenne pour justement faire face à cette mainmise sur les terres rares. On va évoquer dans quelques instants la perspective. Je vais vous demander si vous y croyez, d'ouverture de nouvelles mines en Europe. Mais d'abord, la première des stratégies qui a été mise en place par l'Union européenne, c'est de sécuriser son accès aux terres rares et notamment en mettant en place des accords de coopération, Gilles Le Pesant.
Oui, mais effectivement, il y a plusieurs accords qui ont été signés. Mais concernant l'activité minière, je pense que c'est assez difficile d'y croire. Alors, comme on le disait tout à l'heure, il y a probablement de nombreux gisements de terres rares et de métaux critiques un peu partout qui ne sont pas encore connus aujourd'hui. En Europe, notamment dans le nord de l'Europe, sur le plateau scandinave, les richesses sont considérables. D'ailleurs, c'est en Suède que les terres rares ont été pour la première fois découvertes. Dans le sud du Groenland, un grand projet minier est actuellement en cours de développement. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'un grand projet minier devient intéressant, on a des investissements chinois qui s'y opèrent. Cela étant, on voit bien que se pose la question de l'acceptabilité sociale. On imagine très mal de nombreuses mines s'ouvrir aujourd'hui en Europe. Pour une raison simple, on le voit bien en Chine, les mines de terres rares sont extrêmement polluantes. Et c'est d'ailleurs un des enjeux qui est en arrière-fond de la stratégie chinoise, c'est qu'on a une quantité de villages où les cas de cancer se multiplient. Les problèmes de pollution sont tout à fait considérables et on n'imagine pas ce genre de situation se produire en Europe.
Donc, d'ailleurs, vous parliez de la Suède. Il y a quelques temps, je crois, la Suède avait autorisé dans un premier temps l'exploitation d'un site qui permettait d'extraire du dysprosium. Et finalement, on a été obligé de revenir en arrière et d'arrêter l'extraction. Donc, ce que vous dites, c'est qu'en gros, il ne faut pas trop compter sur ces nouvelles mines européennes.
Non, et aujourd'hui, l'Europe représente à peu près 5% de l'activité minière mondiale contre 50% au 19e siècle. Et malheureusement, enfin, ou heureusement, je ne sais pas, pour des questions sociales, pour des raisons sociales principalement, cette option-là n'est pas ouverte. Mais,
oui, mais Gilles Lepesant, vous parliez du Groenland, par exemple, parce qu'effectivement, le Groenland, visiblement, renferme dans son sous-sol d'importants stocks. Compte tenu précisément de la faible densité de la population qui s'y trouve, alors vous allez me dire, c'est toujours les mêmes qui payent, ils ne sont pas suffisamment imposants sur le plan démographique pour pouvoir peser. Mais de fait, il y a une faible densité de population. Finalement, ce territoire pourrait devenir, à l'avenir, un nouveau gisement propice à l'exploitation pour les terres rares. Qu'en est-il? Vous ne voyez pas, vous, le Groenland devenir le nouvel Eldorado pour l'extraction minière et pour aller chercher ces terres rares?
Vous savez, ça dépend de deux choses. D'une part, la question géologique. On ne sait pas exactement encore quels sont les métaux et quelle est la quantité de métaux disponibles. Mais il y a un autre enjeu qu'on oublie parfois, c'est un enjeu tout simplement économique, c'est-à-dire que les industriels investissent massivement dans les activités de prospection et d'exploration qui coûtent très cher, uniquement quand les cours sont à la hausse et quand les marchés sont tendus. Si on a des cours relativement bas ou stables, comme c'est le cas pour plusieurs terres rares depuis quelques années, l'appétence des industriels pour des investissements conséquents diminue forcément.
Ouais, vous êtes d'accord avec ça, Guillaume Pitron? Tant que la Chine maintient finalement des cours mondiaux assez faibles, on dissuade d'autres acteurs d'ouvrir de nouveaux sites. C'est ça, hein, c'est très simple. Hein.
Nous sommes dans une pure logique capitalistique. La Chine ne l'est pas nécessairement sur ces questions-là. Et effectivement, elle peut manipuler les cours à la hausse et à la baisse. Et si ce n'est pas rentable pour un industriel européen, américain, d'aller investir dans un gisement qu'il se trouve en Europe ou à l'extérieur, il ne le fera pas. Et qui derrière rachète, c'est la Chine. Donc en fait, la Chine est à la fois monopolistique sur les terres rares qu'elle produit chez elle, bon, c'était ça, c'est une évidence, mais elle commence à devenir, elle est déjà monopolistique sur toutes les terres rares qu'elle a envie d'extraire pour ses propres besoins, hein, pas pour les besoins des Européens à l'extérieur de la Chine dans le monde entier.
Mais donc au bilan, vous ne croyez pas, vous non plus, Guillaume Pitron, à la perspective d'ouverture de nouvelles mines en Europe?
J'aimerais y croire, parce que je pense qu'il faut vraiment qu'on sorte de notre ensommeillement en Europe qui consiste à penser que le marché, la main invisible des marchés, nous fournira toujours ces métaux à satiété et à bas coût. Je pense qu'on est sorti de cela, mais on y croit encore. Et si on regardait la réalité en face, il faudrait absolument que nous sécurisions nos accès, et c'est ce qu'on pourrait appeler la souveraineté minérale. Après tout, on parle de souveraineté alimentaire, on parle de souveraineté énergétique. Pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas de souveraineté minérale?
D'aucuns en parlent, les Chinois en parlent.
Ah, mais les Chinois ont complètement au prix d'un désastre environnemental dont ils sont parfaitement conscients, mais effectivement ils savent ce que c'est. Et mais les Japonais aussi, par exemple, puisque les Japonais traditionnellement n'ont jamais eu de ressources minières sur leur territoire et ont toujours bataillé pour sécuriser ces approvisionnements. Mais nous dormons.
J'indique quand même pour nos auditeurs qu'on va dédier une émission cette semaine aux enjeux écologiques. Donc on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui, Guillaume Pitron, on l'évoque, mais on l'abordera très largement dans ces jours qui viennent. Gilles Lepesant, vous êtes un spécialiste des politiques européennes de transition énergétique, et je voudrais, avant de vous quitter, vous interroger un peu sur la question des panneaux solaires, avant de passer à un nouvel invité. Parce qu'en 2013, on se souvient que la Commission européenne avait décidé de mesures anti-dumping à l'encontre des panneaux solaires chinois. Concrètement, elle avait mis en place des taxes pour protéger l'industrie européenne. D'une certaine manière, c'était la réponse du berger à la bergère, hein, puisqu'il y avait ces quotas sur les terres rares. Eh bien, la Commission européenne avait décidé de mettre en place ces taxes. Et puis finalement, en février 2017, donc il n'y a pas si longtemps, il y a un an, on avait décidé de les supprimer graduellement sur une période de 18 mois pour permettre aux industriels européens de s'adapter progressivement. Comment comprendre cette décision? Pourquoi est-il finalement dans l'intérêt de l'Europe de ne plus sanctionner le photovoltaïque chinois?
Oui, alors en fait, bon, il n'y avait pas de consensus parmi les États membres pour sanctionner davantage le photovoltaïque chinois. Bon, il y a deux raisons à cela. La première, c'est que l'industrie du panneau solaire a perdu beaucoup d'acteurs, donc il n'y a plus beaucoup d'industriels à protéger. Mais surtout, une autre raison qui est plus importante, c'est que d'autres filières bénéficient de la montée en puissance du photovoltaïque, d'autres industriels qui produisent différents composants, par exemple, ou les installateurs, tout simplement. Or, quand on regarde les choses un peu en détail, on s'aperçoit que dans ces secteurs-là, un peu périphériques, les emplois se créent en nombre conséquent. Donc, si vous augmentez le prix des panneaux solaires, si vous ralentissez le développement de cette énergie, forcément, vous allez porter atteinte à ces industriels. Donc, au final, la décision a été prise de ne pas sanctionner davantage. Alors, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est que les États-Unis viennent de prendre une décision inverse. Comme l'administration Obama, l'administration Trump a décidé de sanctionner les panneaux solaires chinois. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction de l'industrie. C'est qu'au fond, plusieurs industriels américains se sont plaints de cette décision. D'une part parce qu'ils avaient délocalisé une partie de leur production en Asie, et d'autre part parce que beaucoup sont engagés justement dans ces secteurs un petit peu périphériques, dont je parlais tout à l'heure des installateurs. Et donc, l'essor du photovoltaïque va nécessairement être ralenti au détriment de l'ensemble de la filière. Alors, l'association des industriels du photovoltaïque a donné un chiffre tout simple en disant que cette décision de l'administration américaine allait coûter 23 000 emplois aux États-Unis. Ce serait intéressant de faire le point d'ici quelques mois pour voir qui de l'Europe ou des États-Unis.
Bien sûr, avait raison. Et on va partir dans un instant du côté des États-Unis. Mais d'abord, un tout petit mot, Guillaume Pitron. On dit parfois que l'utilisation des panneaux solaires n'est peut-être pas aussi bénéfique du point de vue du bilan carbone qu'on pourrait le dire. Il faut du silicium purifié, il faut justement des terres rares, il faut des gaz. Et certaines voix s'élèvent pour dire que finalement l'énergie et l'empreinte carbone pour créer ces panneaux sont parfois supérieure à l'énergie qui va être produite sur l'ensemble de la durée de vie du panneau. C'est le cas.
Des terres rares dans les panneaux solaires, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas un ultra technicien. Je crois que c'est du gallium et de l'indium notamment qu'il faut, en plus bien évidemment du silicium, qui n'est pas rare mais critique. Et oui, effectivement, il faut analyser le coût de l'ensemble du cycle de vie d'une technologie verte.
On va aller directement du côté des États-Unis pour retrouver Jack Lifton, qui est un spécialiste des minerais critiques, chercheur à l'Institute for the Analysis of Global Security et directeur et cofondateur de TM Research, un laboratoire. Il connaît bien cette industrie minière. Il a d'ailleurs été consultant pour l'industrie des terres rares au Canada. Il est encore aujourd'hui consultant aux États-Unis. Et on va évoquer l'actualité parce que le 20 décembre dernier, Donald Trump signait un ordre exécutif pour engager la réduction de la dépendance des États-Unis pour ces métaux critiques, pour les métaux critiques et parmi les terres rares, un ordre signé après la publication d'un rapport d'un institut, l'Institut géologique des États-Unis. Alors, quels seront les effets de cet ordre exécutif? Jack Lifton répond au micro de Samuel Bernard.
This executive order doesn't order anything. It's a goal of this administration, the US government.
En fait, cet ordre exécutif n'ordonne rien. Il est avant tout la définition d'un objectif pour cette administration de réduire la dépendance nationale en ressources critiques nécessaires aux productions de haute technologie.
The USGS has been publishing this table of American reliance.
Effectivement, cela fait 30 ans que l'Institut d'études géologiques des États-Unis publie une table des dépendances. Or, il y a justement 30 ans, les États-Unis étaient dépendants de seulement 7 de ces ressources.
Today your number is 20. The fact is,
aujourd'hui, concernant ces ressources et cette relation de dépendance, vous me donnez le chiffre de 20 ressources. Et le fait est qu'il y a effectivement 20 de ces ressources que les États-Unis ne produisent pas du tout. Mais j'ajoute qu'il y a encore 30 autres ressources dont les États-Unis ne produisent qu'à peine la moitié des besoins correspondants.
The point is, it's obvious to all of us that the US is completely dependent on imported.
Aujourd'hui, il est donc évident pour tout le monde que les États-Unis sont dans une situation de dépendance totale en ce qui concerne les ressources importées pour l'industrie, les consommateurs américains et les systèmes de haute technologie de l'armée.
The executive order by Trump surprised us because the previous two administrations.
En effet, l'ordre exécutif de Donald Trump nous a surpris. La raison est simple, les deux administrations précédentes n'ont même pas pris la peine de reconnaître le problème. Pourtant, l'Institut d'études géologiques des États-Unis, qui fait, je crois, partie du département de l'Intérieur, nous a répété cela à l'envi pendant au moins une génération. Je ne pourrais donc jamais le dire assez. Reconnaître ce problème signifie seulement que la finance est en train de s'intéresser de plus près à cette situation. Il y a donc encore du chemin à parcourir.
This is a long way.
Jack Lifton, dans la lettre du texte, l'ordre exécutif du 20 décembre dernier, portant ambitieux, annonçant que le gouvernement fédéral s'intéressera à toutes les étapes de l'industrie.